9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Florence, le soir des rois. Nous sommes dans la soirée du 6 janvier 1537, dans ce grand palais de la famille Médicis, avec tous les besoins, vous savez, on est via Larga, les Médicis règnent sur la ville, qui a été duché, république, ça fait un siècle qu'ils sont là, absolument indéboulonnables. À l'époque, ils sont soutenus par Charles Quint, et dans un des salons, vous voyez ce que peut être un salon de la famille Médicis, hein, des marqueteries, des tapisseries très riches, pas très loin d'un bon feu, le jeune seigneur de Florence est en train de tirer les rois avec son épouse et avec leur cour. Le seigneur en question, c'est le duc Alexandre, il a 26 ans, un homme cultivé, lettré, vous l'imaginez avec ses boucles brunes, ses grands yeux noirs. Il mène une vie de sybarite, disons-le, des fastes, des raffinements, quelques débauches aussi qui font scandale. Mais il tient Florence en ordre et c'est la raison pour laquelle il dispose du soutien de l'empereur Charles. La soirée dure un peu, on grignote jusqu'au moment où Alexandre se lève et congédie ses compagnons. Or, plutôt que de gagner ses appartements ou les appartements de son épouse, il se couvre d'une cape, il sort du palais et s'en va au pas bien loin. À quelques pas de là, il frappe à la porte d'un petit palais qui est voisin du grand. Ce petit palais, c'est la demeure de son cousin, qui lui aussi est un Médicis, c'est Lorenzo, encore plus jeune, il a 22 ans, encore plus sensuel, encore plus débauché que son cousin. Henri Pigayen dans Les Médicis, paru chez Pygmalion, c'était en 2015. Voici ce qu'il nous dit, il nous le présente, ce jeune Lorenzo. Ce jeune éphèbe de 20 ans, amateur d'art, collectionneur d'antiquités, est un admirateur de Plutarque et de Machiavel. Il est lui-même auteur de vers et de comédies. Il présente d'autre part les symptômes de folie partielle et est le jouet de ses propres pulsions et impulsions. En 1533, il tente sans raison apparente d'assassiner Clément VII, qui entre parenthèses est le père de son cousin Alexandre. L'année suivante, au grand émoi des Romains, il décapite les statues des 8 captifs barbares qui ornent l'arc de Constantin. Pour lui éviter l'échafaud, le pape, en apprenant le nom du coupable, le somme de partir vivre à Florence, auprès d'Alexandre, donc de son fils. À son arrivée, peu s'en faut que dans un accès de démence, il ne précipite le duc d'une fenêtre du palais de la Via Larga. Pour ses frasques, pour ses crises, pour ses méchancetés, Lorenzino reçoit le surnom de Lorenzo le Mauvais, autrement dit Lorenzaccio. Et les deux cousins n'en sont pas moins, Alexandre et Lorenzaccio, n'en sont pas moins les meilleurs amis du monde. Certains disent même bien plus que cela. Benedetto Varchi, dans ses chroniques florentines, rapporte le témoignage de Cellini. Vous savez, Cellini, le grand orfèvre, le grand sculpteur. Bien des fois, tandis que je venais pour faire le portrait du duc Alexandre, je le trouvais faisant la sieste après dîner avec son Lorenzino de Médicis, et je m'émerveillais fort qu'un tel duc se fiât ainsi à quelqu'un.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Nous sommes donc le soir des rois, le soir du 6 janvier 1537, et si Alexandre rejoint donc Lorenzaccio, c'est lui, c'est parce que son cousin lui a promis une soirée incroyable avec deux jeunes femmes. Alors où sont-elles ? Demande Alessandro. Installe-toi, je vais les chercher, répond Lorenzaccio, qui sort. Alexandre se déshabille, s'allonge sur le lit et s'endort. C'est à ce moment-là que Lorenzaccio revient, non pas en compagnie des deux jeunes femmes en question, mais avec un personnage patibulaire qui s'appelle Scorone Coccolo, un homme armé d'une épée. Et Lorenzaccio chuchote « Tue-le !» Le tueur assène à Alexandre endormi un premier coup d'épée. Évidemment, ça réveille le duc qui essaie de se défendre. Lorenzaccio va lui-même porter le deuxième coup, un coup de dague, et cette fois, ça y est. Florence n'a plus de seigneur. Pourtant, l'entourage d'Alexandre l'avait mis en garde. « Méfie-toi de Lorenzaccio, il est dangereux et pericoloso !» Benedetto Varchi, toujours ce chroniqueur, raconte que Lorenzaccio avait déjà tenté d'assassiner Alexandre le jour de ses fiançailles. Alexandre avait demandé à son cousin d'écrire une petite pièce comique pour être jouée le soir dans le palais de la confrérie. Et Lorenzaccio avait écrit L'Aridosia. C'est une satire sociale qui s'inspirait un peu des vieilles comédies sur l'avare, qui inspirera Molière lui-même, du reste. Il dirigeait aussi les décors. Il avait demandé au menuisier de construire des gradins de telle sorte que tout le théâtre s'écroule sur le duc. Et le menuisier avait refusé. On avait laissé tomber ce projet d'assassinat déjà. Alexandre n'avait tenu aucun compte de tous les avertissements qu'on avait bien pu lui prodiguer. Il continuait à appeler Lorenzaccio son mignon. Et le nouveau piège, celui du 6 janvier, lui aura été fatal. Alors, quel est le mobile de Lorenzaccio? Il y a pas mal d'hypothèses à ce sujet. Est-ce que, tout simplement, Lorenzaccio aimait son cousin au point d'être devenu très possessif et aurait été rendu fou par son mariage? Est-ce qu'il aurait tout simplement cédé à une espèce de crise de délire, voire de folie? Ou bien voulait-il s'emparer lui-même du trône? Il est le successeur d'Alexandre, puisqu'Alexandre n'avait pas encore d'enfant légitime. Sauf que Lorenzaccio est tout sauf un homme de pouvoir. Vous avez bien compris que c'est un jouisseur. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui peut assumer les responsabilités de Florence. Et d'ailleurs, sitôt le crime accompli, il s'enfuit, il s'embarque pour Marseille. De Marseille, il tente de joindre Paris. Bref, on peut aussi se poser la question d'une machination plus générale. Est-ce que Lorenzaccio n'aurait pas été manipulé par un autre cousin, Hippolyte de Médicis, qui avait été, lui, écarté du pouvoir? On peut imaginer que tout ça s'est rejoint. Un désir délirant de meurtre qui s'est appuyé sur des ambitions plus ou moins vraies, entretenues par les ennemis d'Alexandre et qui a trouvé dans la jalousie une ultime justification. Bref, peut-être que pour répondre à la question difficile du mobile de Lorenzaccio, le mieux ce serait de l'écouter lui-même. Dans son apologie, donc dans sa défense, si vous voulez, voilà ce qu'il dit. Il n'est personne pour douter que le duc Alexandre, qui se disait Médicis, ne fut tyran de notre patrie. Tous ceux qui gouvernent Florence sans avoir été élus par le peuple pour la gouverner sont des tyrans, ainsi qu'a fait la maison Médicis. Mon but était de délivrer Florence et le meurtre d'Alexandre était mon moyen. Donc là, officiellement, c'est un crime politique. Lorenzaccio explique aussi qu'il pensait qu'un parti favorable à la liberté allait prendre le pouvoir, mais que ces hommes se sont finalement, au dernier moment, un petit peu dégonflés, hein, qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur projet. Quels étaient-ils? La question se pose. Quelle faute est donc la mienne si je ne leur ai pas trouvé la promptitude et le courage qu'ils doivent avoir? En clair, en s'infiltrant auprès d'Alexandre pour le tuer, c'est une sorte de mission qu'aurait accompli Lorenzaccio. Sauf que les ennemis d'Alexandre n'ont pas réussi à prendre le pouvoir et que désormais, pour l'assassin, ce qui commence, c'est une interminable cavale. Thank you. La danse napolitaine, extrait des joyaux de la Madone d'Ermano Wolf Ferrari. L'Academy of St. Martin in the Fields était sous la direction de Sir Neville Mariner.
Vous écoutez Radio Classique.
On se réunit à Florence dès le lendemain de l'assassinat. Bien sûr, les sénateurs sont là, qui tergiversent, qui se demandent s'il ne faudrait pas rétablir tout simplement la République. Et finalement, sous la pression de Charles Quint, n'oubliez pas que les troupes de Charles Quint sont toujours là présentes, on désigne un autre Médicis à la tête de ce qui restera un duché, un membre de la branche cadette, donc Côme de Médicis, qui a 18 ans, qui apparemment est soumis, docile, qui jusqu'alors a été mis à l'abri des troubles politiques et des menaces d'assassinat par sa mère, bien protégé au fond d'un palais, et pourtant, Côme va se révéler brillant et même ambitieux, et dès son premier discours, il fait savoir qu'il a bien l'intention de gouverner seul. Et on va le voir éliminer tous les conseillers qui prétendraient acquérir un peu d'ascendant sur sa personne. Il se débarrasse de ses amis comme de ses ennemis, écrit un autre chroniqueur qui s'appelle Caponi. Fin juin 1537, Côme déclare Lorenzaccio coupable du meurtre d'Alexandre. Il le bannit par contumace. Il promet une récompense énorme, une pension à vie de 100 florins d'or, en plus d'un bouquet de 4000 florins à qui tuera Lorenzaccio. Alors, je vous l'ai dit, Lorenzaccio, après son forfait, n'a pas seulement gagné la France, il s'est joint aussi à un certain nombre de forces hostiles à Côme Ier, et notamment à la famille Strozzi, père et fils, qui a de nombreux exilés en France. François Ier accueille tout ce petit monde à bras ouverts, il finance, disons-le, il arme même la résistance à cette famille. Il a l'intention de déstabiliser Côme, pour la simple raison que Côme est l'agent de Charles Quint. Et que pour François Ier, du moment que Charles Quint soutient une cause, il faut absolument soutenir les opposants à cette cause. On est dans ce qu'on appelle la 8e guerre d'Italie, et le but de François Ier à terme, c'est de récupérer, toujours sur cette espèce d'obsession, de récupérer son duché de Milan. Bref, on voit Lorenzaccio participer à un certain nombre de batailles, même s'il n'est pas très doué dans ce domaine. Les rebelles vont subir une défaite cuisante. Côme fait exécuter tous les prisonniers, sauf que Lorenzaccio n'en fait pas partie. Il a réussi, lui, à prendre la tangente. Il est allé se réfugier à Constantinople, chez Soliman le Magnifique. N'oubliez pas que le sultan de Constantinople est l'allié de François Ier à l'époque. Et puis, Lorenzaccio a repris un bateau pour la France et il s'est mis sous la protection de sa cousine Catherine de Médicis, qui en 1533 avait épousé le deuxième fils de François Ier. Alors elle est encore issue d'une autre branche de la famille. Catherine va défendre son cousin. Lorenzaccio vit donc à la cour. Il suit la cour à Fontainebleau. Il est parfois à Amboise. Tant qu'il ne menace pas le duc, Côme, en soi, il ne risque pas grand-chose. Sauf que Lorenzaccio, vous l'avez compris, est un personnage instable. Il adore jouer avec le feu. Lorsque ses deux sœurs se marient à Venise avec des fils Strozzi, qui sont donc les ennemis déclarés de Côme de Médicis, Lorenzaccio fait le voyage jusqu'à Venise. Il est là, qui assiste aux noces. Évidemment, les espions de Côme sont là aussi. Tout le monde voit bien qu'il est présent. Et il y a cette récompense énorme, ces 4000 florins d'or promis à celui qui tuera Lorenzaccio. Cette récompense, fait rêver tous ceux qui pourraient essayer de défendre les intérêts de Côme de Médicis. Le duc va lancer des tueurs à la recherche de Lorenzaccio. Et l'évêque Lottini ordonne une espèce de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, une espèce de traque à travers toutes ces provinces. À peine les hommes de main sont-ils arrivés à Venise qu'ils découvrent que c'est trop tard. Lorenzaccio leur a échappé, il s'est rembarqué pour la France, il va falloir le retrouver où qu'il soit. Et depuis Fontainebleau, un espion des Médicis écrit à Côme « On ne sait rien ici de Lorenzo. On pense qu'il s'est enfermé dans un collège à Paris et qu'il y étudie. » Alors, Lottini va mettre ses limiers sur la piste et on débusque en effet Lorenzo au collège des Lombards où il se cache sous un faux nom. Il s'est réfugié chez le trésorier de François Ier, Buonaccorsi. Et quand il sort dans la rue, il est très bien entouré. Hein. Il y a toute une petite escouade autour de lui. Lottini fait son rapport à Côme. J'ai maintenant à dire à votre excellence illustrissime que j'ai appris comment Lorenzino de Médicis a pris pour l'accompagner un certain Vico de Nobili et Spagnole Nicolini, un autre serviteur, nègre mort. Mais néanmoins, je ne pense pas que l'on tarde beaucoup à recevoir nouvelle qu'il est mort. Ben non, pas du tout. Lorenzaccio n'est pas mort. Il va une fois de plus fausser compagnie de ceux qui veulent absolument sa peau. Le voilà qui quitte Paris en grand secret. Il va gagner Saintes. Pourquoi Saintes? Parce que il a là un oncle qui se trouve être évêque. Les agents de Côme perdent un peu sa trace jusqu'à ce qu'on le voit réapparaître à Venise. Lorenzo le traître se trouve ici, écrit un informateur qui se trouve justement à Venise. Et à ce que j'ai pu savoir, il habite avec sa mère et deux serviteurs seulement. On ne le voit jamais qu'en barque, en des milieux solitaires, et encore rarement, il habite au Canareggio, au-dessus du pont qui mène à San Giobbe. C'est une grande maison neuve, peinte, et qu'on appelle la maison du Gonel. Puis Lorenzaccio va se faire héberger chez le nonce apostolique, chez le nonce du pape qui maintenant est devenu le pape Paul III, c'en est fini du pontificat de Clément VII. Donc il est dans un palais magnifique sur les bords du Grand Canal. Le nonce donne de grandes soirées, il reçoit tout ce qu'il y a de brillant, tous les grands esprits de Venise. Et Lorenzaccio est enchanté d'une vie qui lui rappelle la vie de sa jeunesse, sa prime jeunesse à Florence. Et un soir, il va tomber dans les mains d'une jeune femme, Elena Zantani, dont on connaît le portrait patricien. Et pour vivre cet amour, il loue un autre palais, encore plus proche de celui d'Elena que celui du nonce. Elle vit, elle, Campo San Polo, c'est-à-dire en plein cœur de Venise. Et on le voit qui sort furtivement. Il se fait passer pour un certain monsieur Darius. Il est dans un incognito très efficace. Timide précaution quand même, parce que Côme déploie autour du Campo San Polo toute une toile d'informateurs. Il y a de plus en plus de tueurs à gages qui sont là, qui aiguisent leur lame. Finalement, c'est Côme lui-même qui écrit à l'ambassadeur Pandolfini « Donnez-moi avis, puisque vous dites que Lorenzo est resté là-bas, de la maison où il s'est fixé et avec quels gens il est et de quel pays. Tâchez de tout savoir le plus soigneusement que vous pourrez. » C'est l'Orchestre Symphonique de Pittsburgh, sous la direction de Manfred Honeck, qui interprenait les premières mesures de l'ouverture de la force du destin de Verdi.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Évidemment, si Lorenzaccio était un peu prudent, il devrait quitter Venise, suivre son beau-frère Strozzi, qui emmène sa femme et toute la suite à Paris. Strozzi, d'ailleurs, vient prier Lorenzaccio. Viens avec nous, c'était peut-être ta dernière chose. Oh, t'en fais pas pour moi, ils sont pas prêts de me trouver, va. Et tu sais bien que je ne laisserai pas Elena et la petite. Eh oui, c'est l'amour qui retient Lorenzaccio à Venise. Elena et la petite, c'est-à-dire l'enfant qu'ils viennent d'avoir ensemble. 9 février 1548, vous voyez quand même que le temps a passé hein, depuis la nuit des rois 1537. On est en plein carnaval, des hommes, des femmes masquées dans toutes les ruelles, il y a des barques partout, enfin des gondoles, on est à Venise. Lorenzaccio en profite pour sortir, Elena le supplie. « Ne sortez pas mon ami, tant de gens épient ce que vous dites et ce que vous faites. » Et en effet, les tueurs de Côme sont là toujours à ses trousses qui le suivent. Lorenzaccio emprunte une ruelle, une seconde, et hop, il passe dans une gondole et il se fond dans la foule en masque et se volatilise toujours avant que les sicaires n'arrivent à le rattraper. Pandolfini écrit à Côme de Médicis, On a pu faire grand progrès, mais ils sont fermes et délibérés de me donner la marchandise toute finie. Voyez ce que ça veut dire. Lorenzaccio renouvelle ses bravades constamment. Le 26 février 48, il se rend publiquement à la messe avec son oncle et un garde du corps. Deux agents de la milice de Côme le suivent. Ils vont bientôt les dépasser, les agents, et faire face à la petite délégation. Ils n'hésitent pas, ils commencent par oxyre le garde du corps et puis ils blessent l'oncle et puis ils vont se jeter sur Lorenzaccio. Trois coups mortels. Lottini peut enfin écrire à Côme de Médicis qui attendait cette nouvelle depuis si longtemps. Ça y est, le coup est fait.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et comme Côme de Médicis ne craint plus que son pouvoir soit désormais contesté, enfin presque plus, parce que Lorenzaccio avait quand même un frère, Giuliano, qui lui est resté sagement en France auprès de Catherine de Médicis, et Côme promet à Catherine qu'il lui rendra tous ses biens en Toscane, c'est-à-dire des biens gigantesques, hein, 320 000 ducats, mais à la condition que le frère de Lorenzaccio, Giuliano, donc, renonce à ses droits sur Florence et entre dans les ordres. Et Catherine de Médicis va dire oui, ça ne vous étonnera pas si vous la connaissez un peu. Et donc Giuliano va devenir abbé à Marseille. On est en pleine période, on est en pleine époque de la commande, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on donne des abbayes assez facilement à la cour. Catherine ménage son cousin Côme Ier. Il faut vous dire qu'entre-temps, François Ier est mort, qu'Henri II est devenu roi, et donc que Catherine de Médicis est reine de France. Et Lorenzaccio, me direz-vous, ben, son nom serait complètement tombé dans l'oubli. Hein, ce personnage obscur et tellement particulier, tellement singulier de la dynastie des Médicis, il serait tombé dans l'oubli si, plus de trois siècles plus tard, George Sand n'avait pas écrit une pièce intitulée « Une conspiration de 1537 ». Elle s'était elle-même inspirée des chroniques florentines de Benedetto Varchi. Les romantiques sont fascinés par la Renaissance, vous savez. Sand a voulu voir en Lorenzaccio un héros républicain et c'est son très cher Alfred de Musset qui va s'inspirer de la pièce de la romancière pour écrire sa propre tragédie romantique. Alors là, un des plus grands chefs-d'œuvre du répertoire, c'est le Lorenzaccio de Musset, n'est-ce pas ? Musset qui fait dire à son ténébreux héros « Le vice a été pour moi un vêtement, maintenant il est collé à ma peau. »
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre Anquetin d'avoir fait revivre cette difficile Florence du XVIe siècle. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian.
Collé à la peau du personnage Bonjour Franck, c'est Gérard Philippe.
Oui d'ailleurs.
Gérard Philippe avec la mise en scène.
Bien sûr.
Il y a eu Pierre Vanneck aussi qui l'a joué. Et puis n'oublions pas qu'il y a eu une version aussi un petit peu plus tard avec Francis Huster qui actuellement est en tournée.
Mais oui.
Avec les pigeons avec Michel Leb.
Mais oui.
Une pièce écrite par Michel, mise en scène formidablement bien. Lorenzaccio, Gérard Philippe, je pense aussi, vous avez probablement vu cette photo dans les années 70, j'avais rencontré Raymond Moretti qui faisait beaucoup de portraits, il a fait un portrait
de Morel, portraits très graphiques. Hein.
Et il y a une affiche où on voit Gérard Philippe sur fond rouge, extraordinaire. Donc voilà, merci d'avoir évoqué tous ces souvenirs et puis bien sûr la véritable histoire de Lorenzaccio,
oui.
Ne l'oublions pas, qui a inspiré donc Madame Sand et puis Musset. Cet après-midi, nous avons un dernier été passé en compagnie de Franck Ferrand, mais pas concernant Franck Ferrand, c'est Coligny.
Oui, l'amiral de Coligny, vous savez, le chef des protestants, qui a passé son dernier été 1572.
De mauvais souvenirs. Mmh. Bien, à tout à l'heure, mon cher Franck. J'en profite pour vous souhaiter une excellente semaine, en espérant que vous avez passé un bon week-end.
Oh oui, excellent, vous
comment
aussi.
Comment était Maubeuge?
Ah, c'était passionnant, Maubeuge, formidable, passionnant. Les gens étaient adorables.
Bon, formidable, on les salue au passage, et puis on vous dit bonjour et bonne journée avec Radio Classique. À demain. Bonne journée.